France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont bien installés à déguster en privilégié, hein, voilà, une boisson du grand cru du service radiophonique français baptisée Eau. On peut dire ça, une eau d'un classique désolant, mais c'est ce qui en fait tout son charme hein, d'ailleurs, hein, plus plat que cette eau, c'est le néant, et le tout servi dans des verres en plastique, c'est notre côté politiquement incorrect, on n'hésite pas, on ne recycle pas ici. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Également Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Également Raphaël Rémy Leleu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de l'association Oser le Féminisme, et Gaspard Koenig, bonsoir, du think tank Génération Libre, et... je dois le dire, comédien également, hein, voilà, dans Jackie, voilà, de Pablo Larraín.
C'est voilà. Pas tous les jours qu'on serre la main du général de Gaulle.
Exactement, puisqu'on vous voit en image.
Donc on n'est pas gaulliste.
Exactement. Alors, vous, parce que, alors, juste une chose, juste Gaspard Koenig, parce que c'est vrai que vous venez depuis le début dans cette émission et vous jouez véritablement dans le film qui est sorti mercredi dernier sur le film sur Jackie Kennedy.
Oui.
Donc, vous avez fréquenté Nathalie Portman, on peut le dire.
Enfin, je joue très modestement parce que j'ai un rôle muet, mais il paraît que je ressemble à Ted Kennedy.
D'accord.
Donc voilà, j'ai eu les costumes de Ted Kennedy, les pas de Ted Kennedy, j'ai suivi le cortège funèbre. En fait, mon rôle consistait à faire une tête d'enterrement, véritablement, pendant 10 jours, parce que c'est quand même très très long.
Oui, 10 jours.
Et donc à voilà, gravement marcher en regardant le cercueil.
Et juste rapidement, et comment vous avez été repéré par la production de ce film de...
Sur un plateau comme celui-ci, en débattant probablement du droit du travail. Donc maintenant, je dis aux jeunes acteurs, au lieu d'aller au cours Florent, faites du droit du travail.
D'accord.
Venez en parler sur télé, et puis en fait, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord, pour les blockbusters en tout cas, c'est là, peut-être que vous serez aux Oscars, on ne sait pas encore, en tout cas, c'est bientôt les Oscars. Allez, ce soir, on parlera de la présidentielle, bien sûr, et de la droite hein, qui tente de remonter la pente, alors que certains dans leur camp continuent à descendre. On parlera de l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois, de la manière de lutter contre les fausses informations, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et pendant ce temps-là, François Fillon était à Troyes, dans l'Aube, hein, un déplacement sur le thème de l'emploi. Ce matin, il était en réunion avec les parlementaires, le soutenant dans la campagne. Voilà, hein, c'est quotidien, voilà, hein, qui n'est pas toujours folichon. Pénélope Fillon. Ah bah oui, encore cette vieille histoire, là, ça fait 24 heures, c'est fini tout ça. François Fillon a fait une conférence de presse, il a rien fait de répréhensible, mais il s'excuse. C'est la faute des médias, des officines, hein, qui n'ont pas de nom ni de personne, mais on sait ce qui elles sont. Donc voilà, c'est reparti aujourd'hui, tranquillement. Qui voudra encore parler de cette histoire, franchement? Bon, on apprend juste que Pénélope Fillon a touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale, par le canard enchaîné, hein, qui paraîtra demain, et même les socialistes s'inquiètent maintenant de la vie de famille de l'immeuble en face. On peut dire ça comme ça, Jean-Christophe Cambadélis.
Bon, écoutez, François Fillon a dit à son camp, à la droite, j'ai commis une faute, mais vous n'avez pas le choix.
Oui.
C'est ça le résumé. J'ai commis une faute.
Il a pas parlé de...
Bah, il a présenté...
prononcé le mot faute.
Oui, mais il a présenté ses excuses. Quand on présente ses excuses, c'est qu'on a commis une faute. Donc il a commis une faute. Mais à partir du moment où Alain Juppé ne voulait pas être le candidat de substitution, il a dit à l'ensemble de la droite, vous n'avez pas le choix. J'ai été élu par 4 millions de Français, donc personne ne peut décider que je me retire. Voilà. Donc il a pris en otage son propre camp.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ce matin sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin. Donc, nouvelle révélation, hein, Judith Vintraube dans l'affaire Fillon, qui a enchaîné, donc, affirme aujourd'hui que Pénélope Fillon a touché au total 45 000 euros d'indemnité licenciement payé par l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est un rendez-vous le mercredi.
Oui, voilà. ça feuilletonne,
voilà.
Comme on pouvait s'y attendre. Alors, vous dites nouvelle révélation, c'est toute la question.
C'est ça.
La défense de François Fillon, c'est de dire que ces sommes étaient déjà incluses dans le calcul qu'il a fait. Et dans ce qu'avait donné comme chiffre en montant brut le canard enchaîné dans ses deux précédentes livraisons, puisque c'est la troisième fois que le canard fait sa manchette sur le couple Fillon, François et Pénélope Fillon. Donc pour François Fillon, circuler, il n'y a rien de plus à voir en tout cas, puisque selon lui, ces sommes qu'il appelle des indemnités de départ font partie du calcul qui l'amène à dire que sur 15 ans, Pénélope Fillon a touché 3677 euros pour un travail réel.
Christophe Alix, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que On a l'impression, c'est vrai qu'on ne sait pas. C'est-à-dire quand on se réveille le matin, on ne sait pas comment on va retrouver François Fillon le soir. C'est vrai que c'est une affaire. On a l'impression que ça va être très difficile pour le candidat de la droite aujourd'hui d'être audible et finalement de développer un programme pour la présidentielle, qui, je rappelle, c'est le 23 avril prochain quand même, hein, le premier tour.
Ben c'est sûr que on voit bien que, comme l'a dit Judith, que le canard s'est feuilletonné et qu'il en a peut-être encore un petit peu sous le coude. Et effectivement, François Fillon, il nous dit tout cela est terminé, tout ça est derrière nous.
Il dit pas c'est terminé. Il voit là-bas défense et,
oui.
Et c'est au juge. Bon.
Et en fait, effectivement, tout ça lui est rappelé effectivement toutes les semaines. Non, moi, ce que je note, je sais pas exactement sur ce montant des indemnités, apparemment, en plus, c'est conforme à l'usage des assemblées. Mais un, peut-être que ça a été oublié, premièrement. Et deux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, effectivement, comme l'a dit François Fillon, en tant que parlementaire, il est le seul patron de ses assistants. Et donc, il est libre de leur donner le montant qu'il souhaite. Mais j'ai également remarqué que, systématiquement, ou disons d'une manière globale, sa femme et ses deux enfants avaient été plutôt beaucoup mieux rémunérés que la moyenne des assistants parlementaires.
Voilà,
et ça, c'est quand même un point, je trouve, notable. Voilà, ils ont eu plus d'argent. Un seul chiffre, Marc Joulot,
le suppléant
entre 2002 et 2007, 88% de son budget réservé aux assistants parlementaires a été à Pénélope Fillon.
Raphaël Rémy Leleu, justement, quand vous voyez aussi ce feuilletonnage de l'affaire Fillon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit finalement la politique française ?
De toute façon, c'est assez effarant. Nous, on combat depuis des années l'idée du salaire d'appoint, de l'indépendance économique des femmes. Là, on se retrouve quand même face à des situations totalement absurdes et mine de rien, peu importe finalement que ces indemnités de chômage aient été comprises dans le premier chiffre ou pas, ça redonne aussi une réalité aux chiffres, que ça soit pour les assistants parlementaires et les assistantes parlementaires qui se préparent toutes et tous à être au chômage dans quelques mois, ou pour l'ensemble des Françaises et des Français qui sont au chômage et qui voient la différence entre leur indemnité chômage et une indemnité chômage qui n'est pas, même pas du copinage, mais versée en famille. Enfin,
c'est... Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Garde à vue levée ce soir pour l'Égyptien de 29 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque de vendredi au Carrousel du Louvre à Paris. Son état de santé s'est fortement dégradé. Le suspect gravement blessé au ventre par des tirs de riposte des militaires a nié un peu plus tôt dans la journée avoir voulu commettre un attentat, précisant qu'il voulait s'en prendre à des œuvres d'art. Fin de citation. Nouvelle révélation dans le Canard enchaîné à paraître demain. Elle ne concerne pas les salaires perçus par Pénélope Fillon, mais les indemnités de licenciement que l'Assemblée nationale lui aurait versées en 2002 et en 2013. 45 000 euros au total. En 2002, l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle aurait notamment touché l'équivalent de 5 mois de salaire, alors qu'elle venait pourtant de retrouver un emploi auprès de Marc Joulot. Marc Joulot, c'est le suppléant de son mari. Le candidat dénonce ce soir des mensonges et des erreurs manifestes. L'autre affaire du jour dans le camp Les Républicains, c'est Big Malion. Nicolas Sarkozy va faire appel de son renvoi en correctionnel. Son avocate note qu'un seul des deux juges saisis a signé l'ordonnance. L'ancien chef de l'État est renvoyé en procès avec 13 autres personnes dans l'enquête sur les dépenses de campagne lors de la présidentielle de 2012 et les fausses factures de la société Big Malion. Les établissements scolaires doivent rouvrir demain sur l'île de la Réunion. Les écoles et les crèches étaient toutes fermées aujourd'hui après le passage de la tempête tropical Carlos. Le vent s'estompe ce soir selon les derniers bulletins de Météo France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, mais de quoi parlons-nous ? Ah bah tiens, de François Fillon, bien sûr, comme depuis deux semaines, presque, on va dire ça comme ça. Gaspard Koenig, on le voit hier, François Fillon, lors de sa conférence de presse, a parlé de transparence, qu'il voulait être transparent maintenant. On entend beaucoup de ténors des Républicains qui parlent aujourd'hui d'obligation de transparence. Je précise juste que pour la première fois dans cette campagne, à l'occasion de cette présidentielle, tous les candidats vont devoir fournir sous pli scellé leur déclaration de patrimoine en même temps qu'ils adressent leur candidature au Conseil constitutionnel. C'est bien, justement. Cette obligation de transparence.
Je pense que ça va dans le vent de l'histoire qui de plus en plus demande aux hommes politiques d'être moins des messagers que des relais de probité, en fait. On demande moins à l'homme politique d'avoir un programme complet, de porter une vision de la société, que d'être simplement le réceptacle ou la chambre d'écho de l'opinion publique à un moment donné. Et donc, on lui demande d'autant plus de probité. C'est assez frappant, par exemple, aujourd'hui en Roumanie. Vous avez 500 000 Roumains dans la rue. Ouais. Parce qu'il y a eu une affaire de corruption là-haut. Et puis, donc, une loi qui a été changée pour permettre à quelqu'un d'échapper au pénal. Mais je rappelle qu'en Roumanie, si vous embauchez, même que l'emploi soit fictif ou non, si vous embauchez un membre de votre famille jusqu'au second degré comme attaché parlementaire, vous avez jusqu'à 5 ans de prison. Mmh. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays européens. Donc la France est, de ce point de vue-là, un peu, on en pense ce qu'on veut de ces lois sur la transparence, d'un point de vue historique, elle est en retard sur cette évolution. Et d'ailleurs, c'est assez notable dans ce qu'a dit François Fillon à sa conférence de presse. Il a dit, je pense que c'est quand même l'essentiel de ce qu'il faut retenir, il a dit, ce qui était acceptable autrefois n'est plus accepté aujourd'hui. Mmh. Quand vous prenez, j'ai regardé aujourd'hui la liste de tous les députés qui ont rémunéré en 2014 leur conjoint, fils, fille ou frère, ou sœur. Oui. Il y en a quand même 100 sur 500. Alors, c'est pas tous des emplois fictifs, c'est pas tous les mêmes sommes, c'est des CDI, des CDD, etc. Mais clairement, il y avait des pratiques acceptées, qui étaient relativement, si vous voulez, légales, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, il faut en prendre acte. Je pense que la première chose à faire, s'il veut relancer sa campagne, c'est d'expliquer qu'il fera une loi en interdisant définitivement.
Il a dit qu'il ferait un statut de l'élu.
Un statut de l'élu, voilà,
c'est ça. Très bien. Mais ensuite, évidemment, le problème de cette présidentielle est qu'on est obsédé, mais ça c'est le problème de la présidentielle en général, vous avez déjà entendu sur le sujet, on est obsédé par les personnalités.
C'est comme Benoît Hamon finalement, c'est ce qu'il dit Benoît Hamon, aujourd'hui il n'y a pas d'homme providentiel.
Et que du coup on s'enquiquine pour savoir exactement ce qu'ils ont fait, en quelle année, etc., au détriment du fond de leur programme. Et enfin, dernière chose, Marine Le Pen, elle a exactement la même affaire avec des attachés parlementaires au Parlement européen, et ça ne fait pas les gros titres de la presse, c'est quand même bizarre, il faudrait au moins que ça ait un impact équivalent, parce que les gens vont passer au FN en disant tous des pourris, alors que vous avez une affaire complètement coupée-collée.
Similaire, c'est ça. Julie Vintraube.
Oui, alors, la seule différence, c'est que Marine Le Pen ne s'est jamais présentée comme un parangon de vertu, même si son slogan est tous pourris, elle n'a pas dit,
au contraire.
Je suis complètement propre.
Ouais, alors,
François Fillon, qu'est-ce qu'il paye ? Vous avez raison, ses pratiques sont extrêmement répandues. Relativement légales, ça n'existe pas.
Elles le sont légales, après il y a le problème de l'emploi fictif ou non.
Il y a le plan légal. Sur le plan légal, François Fillon a parfaitement raison de dire que le parquet financier national n'a pas à juger du contenu du travail d'un assistant parlementaire et que c'est une atteinte à la séparation du pouvoir.
La question, c'est de savoir si Pénélope Fillon a vraiment travaillé.
Exactement. La question, c'est sur emploi fictif ou non.
Non, parce que la justice n'a pas à juger du contenu de l'emploi de l'assistant parlementaire. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est la séparation des pouvoirs. Moi, ma seule interrogation, c'est pourquoi a-t-il fallu 15 jours pour que François Fillon ou ses avocats sortent cet argument qui est un argument vraiment de base pour qui connaît le droit français.
Raphaël Rémy-Leleu, vous vouliez répondre
parce que finalement, il y a toujours quand même cette question, et je crois que c'est là-dessus que le parquet va jouer, c'est n'a pas à juger de l'emploi. Faut-il déjà que l'emploi existe ? Et c'est là que la question va se poser. Mais je suis pas sûre que ça soit seulement une ère du temps d'avoir cette question de la probité. Il y a deux choses que François Fillon paye très cher, c'est d'avoir fait tout un pataquès sur l'éthique, la probité, et finalement ça n'aura pas.
Plutôt qu'un pataquès.
Et puis en demandant des sacrifices aux Français.
C'est devenu un pataquès quand un mois après on se fait prendre la main dans le sac. Ah, oui. Et par contre, il y a quand même aussi un problème de méthode. Si on dit que aujourd'hui la société n'accepte plus cela, moi ça m'inquiète quand même que quelqu'un qui se présente à la présidentielle soit pas capable d'analyser cette base de l'état de la société.
Alors justement, Christophe Alix, il y a quand même une chose. Aujourd'hui, il rassemble les parlementaires qui le soutiennent. François Fillon, il a déclaré ce matin donc qu'il n'y avait pas de plan B, mais un plan A comme attaque. Alors, est-ce qu'il peut passer justement, François Fillon, même question que tout à l'heure, finalement, à l'offensive aujourd'hui, c'est-à-dire que on l'a vu là, il s'est déplacé à Troyes, comme tranquillement, en parlant d'emploi, etc. Est-ce que finalement, ça va être possible pour lui d'aller de nouveau sur un plateau de télé, dans un débat, en parlant justement de 500 000 fonctionnaires qui soient supprimés, la sécurité sociale, des choses comme ça.
Il y a l'air décidé, mais on va bien voir ce que ça va donner d'abord dans les enquêtes d'opinion, comment ça va être reçu sur le terrain, comment ça va être reçu aussi par les parlementaires et les gens qui sont dans son équipe. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il ne laisse absolument pas le choix aux gens qui sont autour de lui. Il
c'est
en
ce
a
que disait Jean-Christophe Cambadélis tout à l'heure.
Il n'en a pas discuté. Il a dit, voilà, je suis le candidat. Je suis le candidat, non pas d'un parti, je ne dois pas ma candidature à un parti, je dois ma candidature aux 3 millions de Français qui ont voté pour moi au deuxième tour de la primaire. Et donc, j'ai cette légitimité. Je suis le seul, éventuellement, à pouvoir me retirer. Enfin, il n'en a absolument pas parlé. Et donc, on voit bien ce qu'il a expliqué, en gros, et je trouve que la une du Parisien, aujourd'hui, était pas mal de ce point de vue, c'est que le plan B, c'était lui. Peut-être qu'effectivement, il a fait des choses qui n'étaient pas très recommandables. Peut-être qu'il a fait des choses qui choquaient aujourd'hui les Français. Mais un, elles ne sont pas illégales. Et deux, juridiquement, il a le droit d'être là où il est. Judith, vous dites une chose. Sur le parquet financier, on voit bien les petites arguties juridiques qu'on pourrait en tirer. Mais enfin, sur le plan de l'éthique et de la probité d'un candidat, ça va quand même être difficile de convaincre les Français qu'on n'a pas le droit de toucher à lui parce qu'il fait absolument ce qu'il veut, des sommes d'argent
qui lui sont. Il y a un plan légal et un plan moral.
Parler dans votre sens, oui, mais juste pour avancer un petit peu, juste demain, dans des quotidiens régionaux ou dans Ouest France, François Fillon doit publier donc une lettre aux Français. Est-ce que finalement, il a raison de faire ça, François Fillon, ou ça l'entretient encore en permanence, alors qu'il a fait une conférence de presse, est-ce qu'il faut encore revenir tout le temps dessus pour lui, puisqu'il est de nouveau dans une autre campagne?
Vous voulez dire que la meilleure stratégie serait de faire comme si de rien n'était?
Je ne sais pas,
par exemple de son plan pour les zones rurales qui existe et qui est très important dans sa campagne, mais je crains que ce soit un peu inaudible. Il est évidemment obligé de tenir compte de ce que l'opinion ressent, exprime, sachant qu'il y a une certaine inertie. Qu'on connaît tous dans l'opinion et qu'il va falloir plusieurs jours, même si les délais sont très courts avant la présidentielle, pour connaître l'effet de ces diverses interventions médiatiques.
Non, mais je réagissais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est toujours. La justice peut toujours le mettre en examen.
Voir Jean-Christophe Cambadélis, qui est quand même le patron du parti qui a refusé des candidats à la primaire du parti, sous prétexte que trop de candidats, ça faisait désordre et que ça...
Enfin, il y en a eu 7, quand même.
Ça entacherait la lisibilité du message politique. C'est un peu curieux de voir cette personne-là donner des leçons. Très rapidement, il se trouve que pour être remplacé, il n'y a pas de prise d'otage, il y a un vide statutaire.
Ça, c'est vrai.
Même si le candidat tombait gravement malade ou mourait, il n'y a rien prévu pour le remplacer.
C'est quand même un peu fou.
Allez, dans un instant, dans les informés de France Info, on a parlé d'un ancien Premier ministre et on va parler d'un ancien président de la République. Et bien, justement, les deux étaient ensemble il y a quelques temps. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Restez unis, ne faites pas la guerre. L'appel au calme du jeune Théo, toujours hospitalisé ce soir après sa très violente interpellation par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois jeudi dernier. Le jeune homme de 22 ans a reçu tout à l'heure la visite de François Hollande et il a adressé un message aux jeunes de sa ville après 3 soirs d'affrontement avec les CRS, selon un enregistrement transmis par l'Élysée. François Fillon dénonce des mensonges. 3e semaine de révélation sur l'affaire Pénélope dans le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique affirme que l'épouse du candidat déjà soupçonné d'emploi fictif, a touché un total de 45 000 euros d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale en 2002 et en 2013. Dans le premier cas, selon le Canard enchaîné, Pénélope Fillon a touché 16 000 euros d'indemnité alors qu'elle avait retrouvé un mois plus tôt un emploi auprès de Marc Joulot, le suppléant de François Fillon. L'affaire Pénélope les touche directement. Les collaborateurs parlementaires de gauche du Sénat protestent contre la précarité de leur statut. Cet après-midi, une centaine d'entre eux ont scandé devant l'entrée du Palais du Luxembourg. Nous ne sommes pas tous des Pénélopes. Accompagnés de sénateurs, ils ont réclamé plus de transparence et un encadrement de la profession. La nouvelle loi israélienne sur la colonisation viole la législation internationale. Réaction ce soir du secrétaire général des Nations Unies après le vote hier par le Parlement israélien d'un texte qui permet à l'État hébreu de s'approprier légalement de nouvelles terres en Cisjordanie occupée. Antonio Guterres affirme qu'Israël doit se préparer à d'importantes conséquences juridiques. Condamnation également de l'Union européenne à l'instant.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, Christophe Alix de Libération, également Raphaël Rémy Leleu de Oser le Féminisme et Gaspard Koenig du think tank Génération Libre. Et puis avec tout ça, on l'avait presque oublié. Il y a quand même eu les primaires de la droite, les réveillons de Noël, de la fin d'année, le froid, les primaires de la balance populaire, Benoît Hamon, étonnant vainqueur, de nouveau le froid. Une petite gastro, voilà, pour moi. Voilà. Puis l'affaire Pénélope Fillon, la deuxième salve de révélation de Canard Enchaîné. Aucune trace de lui, si ce n'est des vacances en Thaïlande et peut-être des victoires au karaoké. Eh bien, il est revenu aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. Il a fait son grand retour médiatique, puisque l'ancien chef de l'État a été renvoyé en procès dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de campagne électorale. Le juge Serge Tournaire lui reprochant d'avoir dépassé sciemment le plafond des dépenses, alors fixé à 22,5 millions d'euros lors de la campagne de 2012. Et aujourd'hui, à la sortie de la réunion avec François Fillon, des parlementaires ont réagi, et notamment Roger Karoutchi et Patrick Balkany.
Un petit mot qui n'est pas passé inaperçu, de solidarité avec Nicolas Sarkozy, aujourd'hui tout particulièrement.
Je note qu'il n'y a que un des deux juges qui l'a signé, l'autre n'a pas voulu la signer. Après, Herzog, son avocat, dira ce qu'il a à dire. Je sais pas. Maintenant, les juges d'instruction, bon, ils font une instruction, en fait, ils renvoient tout le monde et puis ils disent le tribunal se débrouille, quoi. C'est... Bon.
Voilà Patrick Balkany, donc dans une petite analyse judiciaire. Gaspard Koenig, alors il y a les ténors des Républicains, justement, qui, eux, dénoncent un calendrier judiciaire. Ah bah tiens, bah, après l'affaire Fillon, on parle de nouveau de Nicolas Sarkozy.
Vous me demandez un mot de solidarité, c'est
je
ça?
Je sais pas, ah ben je ne sais pas, vous. Non, non, mais après, voilà, non, mais c'est.
Moi, je pensais que justement, on allait enfin pouvoir ne plus parler de Nicolas Sarkozy.
Ah, c'était, bah non,
quand même,
bah alors là,
c'était quand même un grand repos après toutes ces années.
Non, bah non, je vous le dis.
En plus, sur une élection qu'il a perdue, maintenant qu'il n'est plus du tout candidat et qu'il ne le sera plus, c'est une péripétie à classer dans les faits divers judiciaires, je pense. C'est quelque chose qui nous regarde, en fait, en politique.
C'est peut-être pour ça, Raphaël Rémy.
Ce qui est extraordinaire, c'est que même lorsqu'il n'est plus candidat à rien, ça reste un complot médiatique, des tribunaux contre lui. Bon, finalement, quand on se fait défendre par Balkany, on a les amis qu'on mérite.
Alors, l'avocat de Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il faisait appel de ce renvoi à Judith Vintraube. Ça va durer encore longtemps, finalement, cette histoire?
Je ne sais pas.
Bon,
non, non, je ne sais pas. C'est... En plus, je suis désolée, mais il se trouve que Patrick Balkany, là, a souligné quelque chose qui est purement factuel, à savoir qu'un des deux juges n'a pas signé le renvoi encore.
Et c'est le juge Van Ruymbeke, en plus, qui est très symbolique.
Le juge Van Ruymbeke, avec lequel Nicolas Sarkozy a eu
beaucoup
plus,
mal
que, plus ouais. que des tensions ouais. Au moment de l'affaire Clearstream. Donc ça a quand même une signification et une portée juridique.
Ouais, alors, si ce procès a lieu, ça serait quand même assez historique, hein, puisque ça sera la première fois qu'on verra un ancien chef de l'État sur le banc des accusés, puisque dans l'affaire des emplois fictifs, Jacques Chirac n'avait pas pu s'y rendre à cause de sa maladie. Justement, Nicolas Sarkozy, ça sera pas, il n'est pas prêt de poser son baluchon judiciaire, hein, parce que c'est pas la seule affaire. Ça Félix, hein. Il y a aussi son nom apparaît dans l'affaire des écoutes, bien sûr. Il y a le financement présumé par la Libye. Donc finalement, comme Gaspard Koenig, je suis désolé, mais on va encore en entendre parler de Nicolas Sarkozy.
Disons quand même qu'il y a un agenda judiciaire qui est bon, qui est pas, hein, qui est pas l'agenda médiatique, et voilà, et que la justice poursuit son travail. Donc voilà, Nicolas Sarkozy devrait être un justiciable comme les autres, et donc le point qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement, apparemment, c'est une première. Que deux juges aient eu une vision divergente sur ce cas. Et donc voilà, donc c'est quelque chose, ça veut peut-être dire quand même que ce cas est un petit peu est difficile à trancher, parce que donc la question est de savoir si Nicolas Sarkozy pouvait avoir connaissance qu'il était en train de
sciemment dépasser son plafond de dépenses autorisées.
Voilà. Mais sur la crainte du dépassement de ce plafond, sans être forcément au courant de quel était le montant. Donc on voit bien que la question est quand même un petit peu difficile. Sur d'autres dossiers judiciaires, les choses seront peut-être moins...
Moins simples.
Oui, enfin, seront peut-être plus simples.
Ouais,
seront
plus
peut-être
simple.
Plus...
Voilà.
Mais là, c'est vrai qu'on a...
Ou pas,
voilà. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un cas qui a l'air un petit peu compliqué. La preuve, Van Ruymbeke, qui est quand même... qu'on ne peut pas soupçonner d'être...
De collusion.
De collusion, a préféré, lui, ne pas renvoyer. J'ai lu, et c'est intéressant, que Van Ruymbeke s'est toujours occupé d'affaires financières, et donc, à un côté, disons, une manière d'instruire les enquêtes judiciaires d'une manière assez soft, alors que l'autre juge vient, je crois, des affaires de stup, etc. Et lui est plutôt de la manière forte. Nicolas Sarkozy peut encore aller en cassation.
Oui, bien
si
sûr.
Jamais.
Oui,
donc on est vraiment.
Mais juste sur ce, c'est vrai que c'est un moment. On parle beaucoup de l'affaire Fillon en ce moment. De nouveau, il y a Nicolas Sarkozy en ce moment. Voilà, on a l'impression que d'ailleurs on ne parle que de la droite en ce moment pour des questions totalement en dehors de la politique.
Oui, et pour le plus grand bénéfice de Marine Le Pen, hein, quand même, parce que on en a parlé, on a évoqué son nom tout à l'heure. Moi, je suis en contact permanent.
Nickel.
À cause de ma profession, avec des élus de terrain. Donc je ne vous fais pas d'analyse de sondage et les élus de terrain constatent que ces affaires provoquent une fuite un petit peu vers Emmanuel Macron mais beaucoup vers Marine Le Pen.
Allez, la suite des informés de France Info, on parlera de Aulnay-sous-Bois et on parlera également de ces fausses informations parce que c'est quelque chose de très sérieux auquel les médias vont s'attaquer et doivent s'attaquer puisqu'on en a beaucoup parlé lors de la présidentielle américaine, mais est-ce que justement ça pourrait également arriver lors de la future présidentielle française, et bien on en discute. Voilà le programme à suivre, le beau programme des informés de France Info.
Moi, président, j'arrêterai d'opposer croissance et nature. Ça fait 70 ans que le débat écologique est coincé dans cette opposition stérile.
Moi, présidente, je mets en place un ministère du futur qui va analyser en transversal les résultats et les mesures de chacun des ministères du gouvernement.
Bonjour, c'est Olivier Delagarde. Chaque jour, à 9h52, 14h25, 19h20, je reçois une personnalité de la société civile qui vient défendre la mesure qu'elle adopterait si elle était présidente.
Moi, président, je veux réconcilier les citoyens avec l'idée de l'Europe.
France Info Météo. Avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Nuages et pluies demain sur la plupart des régions. Ce sera très nuageux avec quelques pluies dans l'est, des averses entre la Provence et la Corse, entre les Pyrénées et le Massif central, quelques-unes aussi en remontant vers le centre, la région parisienne, le nord de la Seine l'après-midi, de la neige sur tous les massifs autour de 600-800 mètres. Plus à l'ouest, de belles éclaircies au programme, parfois une petite averse mais rien de méchant. Du soleil aussi vers le Languedoc-Roussillon avec du vent, mistral, tramontane jusqu'à 100 km à l'heure. Le thermomètre affichera une baisse. Souvent 1 à 5 degrés le matin, quelques gelées pour les régions de l'Est, un peu plus tout de même en Méditerranée, jusqu'à 9 degrés. Et puis l'après-midi, 3 à 7 degrés dans l'Est, 7 à 11 en allant vers l'océan et jusqu'à 11 à 14 degrés autour de la Méditerranée.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Le démenti des avocats de François Fillon après de nouvelles révélations du canard enchaîné à lire demain. L'hebdomadaire affirme que Pénélope Fillon a touché 45 000 euros d'indemnité de départ comme assistante parlementaire. Indemnité versée par l'Assemblée nationale. David Di Giacomo.
Pénélope Fillon a d'abord perçu 16 000 euros d'indemnité en août 2002 d'après le canard enchaîné. Une somme touchée par l'épouse de François Fillon alors qu'elle venait de retrouver un emploi auprès de Marc Joulot, le suppléant de son mari. L'hebdomadaire satirique affirme aussi qu'en novembre 2013, Pénélope Fillon a reçu 29 000 euros pour une petite année et demie de travail seulement. Faux, répondent les défenseurs de François Fillon. Ils précisent que ces 29 000 euros d'indemnité, elle ne les a pas touchés en 2013, mais en 2007, après 62 mois passés aux côtés de Marc Joulot. De l'argent issu des caisses de l'Assemblée nationale, comme le prévoit le régime des assistants parlementaires. Les avocats du candidat à la présidentielle avancent enfin que ces 45 000 euros d'indemnité de départ avaient déjà été pris en compte dans la somme globale révélée la semaine dernière par le canard enchaîné. En clair, pour eux, il ne s'agit pas ce soir de nouvelles révélations.
Nicolas Sarkozy voit son horizon judiciaire s'obscurcir à nouveau. L'ex-chef de l'État est renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Tout comme 13 autres personnes, son avocat va faire appel. L'ordonnance n'a en effet été signée que par l'un des deux juges saisis de l'enquête, l'autre s'est abstenu. L'ex-chef de l'État soupçonné d'avoir largement dépassé le plafond des dépenses de campagne en 2012, malgré deux alertes des experts comptables. 24 personnes arrêtées la nuit dernière à Aulnay-sous-Bois. De nouveaux incidents ont éclaté pour la troisième nuit consécutive. Après l'interpellation musclée jeudi d'un jeune homme gravement blessé à coups de matraque, François Hollande s'est rendu à son chevet à l'hôpital aujourd'hui. Mahmoud Abbas est à Paris avec François Hollande. Ils condamnent tous les deux la loi israélienne sur la colonisation de territoires palestiniens que le président de l'autorité palestinienne juge contraire au droit international. Condamnation également ce soir de l'Europe. L'administration Trump, elle, garde ses distances. Des raids à l'aube ce matin contre plusieurs sièges de l'ex-branche d'Al-Qaïda dans la ville d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Il y a une trentaine de morts, dont 10 civils, d'après une ONG. Nicole Schmidhofer remporte le Super G des championnats du monde de ski alpin. C'était à Saint-Maurice, en Suisse. À 27 ans, la jeune Autrichienne décroche à la fois son premier titre mondial et sa première victoire, la première victoire de sa jeune carrière. Un mot de football et le Paris Saint-Germain, ce soir, qui reçoit Lille à 21h, c'est la Ligue 1. Le leader Monaco, lui, se déplace à Montpellier. Il est 20h et bientôt 33 minutes sur France Info. Les informés, la suite, la fin, c'est dans une seconde.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Eux, ils sont pétillants hein, et prêts à faire le robot sur le breakdance de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraub du Figaro, également Christophe Alix de Libération, Raphaël Rémy Leleu de Oser le Féminisme et Gaspard Koenig du think tank Génération Libre. Alors, avant d'aborder notre dernier débat, nous allons recevoir Jacques de Maillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes spécialiste sécurité intérieure et on peut dire presque sociologie de la police.
Tout à
fait. On peut dire ça, voilà, comme ça. Alors, avec vous, on va revenir sur cette affaire donc d'Aulnay-sous-Bois qui met une ville sous tension puisqu'hier soir, 26 personnes ont été interpellées après l'interpellation le 2 février d'un jeune homme gravement blessé à coups de matraque par des policiers. Un contrôle qui a dégénéré puisque un des policiers a été mis en examen pour viol et trois autres pour violence volontaire en réunion. Des faits donc extrêmement graves qui ont fait réagir d'ailleurs le président de la République et le Premier ministre en appelant au devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. Réaction justement de François Hollande cet après-midi au tribunal de Pontoise.
Les citoyens doivent comprendre que c'est le juge qui les protège et que le juge prend les décisions, y compris pour ouvrir une information judiciaire et pour qualifier les faits qui permettent aux citoyens de savoir qu'il sera protégé si ses droits ont été bafoués, si son intégrité physique a été mise en cause, y compris par un agent des forces de l'ordre.
Voilà, François Hollande, cet après-midi, juste à noter, donc il s'est rendu hein, d'ailleurs, François Hollande, au chevet Théo. Alors, Jacques de Maillard, pour vous, est-ce que cette affaire est représentative, finalement, d'une tension que l'on peut trouver aujourd'hui dans certains endroits en France où c'est véritablement un acte isolé, voilà, à part.
Non, c'est pas du tout un acte isolé. C'est révélateur de tensions qui peuvent être plus ou moins importantes, hein, qui peuvent aller jusqu'à l'émeute, qui peuvent aller au plus bas à des insultes, à des tensions de nature plus symbolique. Là, ce qu'on a, c'est un acte où il y a eu visiblement un dérapage des forces de l'ordre lors d'un contrôle d'identité. Ça montre bien comment est-ce que dans ces situations, comment est-ce que dans ces lieu, un acte a priori ordinaire peut très facilement déraper.
Mais alors, justement, vous avez publié, vous, un rapport hein, concernant la police, les rapports entre la police et la population. Aujourd'hui, finalement, est-ce que vous direz que les liens entre la police et la population sont distendus totalement, ou finalement, c'est par ces actes isolés, finalement, comme ça, qui peuvent les distendre, ou au contraire, les gens font encore confiance, finalement?
De façon générale, quand on regarde le niveau de satisfaction des gens via la police, il est relativement élevé. Quand on pose des questions plus précises sur est-ce que la police est efficace, est-ce que la police est impartiale, est-ce que la police est juste, on a des appréciations qui sont beaucoup plus mesurées, nuancées, et quand on les compare à d'autres pays européens, elles sont plutôt négatives. Quand on pose la question en comparant les résultats HLM, Seine-Saint-Denis et reste de la France, on voit des écarts extrêmement forts. Quand on pose la question sur le décalage entre question de confiance, est-ce que vous avez confiance dans la police ? 10 points différentiels de décalage, 10. Quand on pose la question de l'impartialité de la police, décalage 15%. Donc on voit des décalages importants dans ces zones urbaines sensibles par rapport au reste de la population.
Mais alors en fait c'est quoi aujourd'hui? C'est certains fonctionnaires de police, certains syndicats de police disent voilà, bah, vous vous rendez pas compte de la tension qu'il y a sur place, ça dégénère, voilà, vous, on a un travail extrêmement difficile. Ça, est-ce que finalement on a l'impression de temps en temps qu'il y a une différence entre, et sur place on l'entend quand on voit dans ces manifestations, entre citoyens et policiers en fait?
Je trouve que cette situation-là, telle qu'on la vit, cette crise, est un très bon complément de celle qu'on a vécue il y a à peu près 3 mois autour de l'agression de policiers à Viry-Châtillon, et montre bien la complexité du problème. On a à la fois des policiers qui interviennent dans des conditions extrêmement difficiles, qui peuvent être menacés, ou il peut y avoir dans certains quartiers un trafic de drogue qui est endémique. Donc les conditions de travail des policiers dans ces quartiers-là sont parfois, souvent difficiles. À côté de ça, on a des populations qui se plaignent de façon récurrente d'insultes, de racisme, de maltraitance de la part des policiers. Donc, on a une situation qui est très nettement clivée, où on a deux mémoires collectives, deux formes de socialisation différentes, qui se traduit par une opposition, une contradiction forte. Et ça pose la question très clairement de comment est-ce qu'on arrive à rétablir les liens. Comment est-ce qu'on arrive à rétablir les liens? Ça pose quand même la question des stratégies d'action de la police. Ça pose la question du recrutement, de la formation et des modes d'action des policiers.
Et pour vous, ils sont pas assez formés, justement, ces policiers? Enfin, c'est aujourd'hui, quand on a vu par rapport à Viry-Châtillon, c'était clairement, ils disaient, le manque de moyens aussi. Est-ce que finalement, on voit que ce sont des policiers jeunes. Est-ce que finalement, des policiers jeunes doivent être envoyés dans des missions difficiles?
Alors, c'est très difficile parce que le travail de police, il est par nature imprévisible. Donc, on ne sait pas si la mission va être difficile avant d'y aller. Ce que l'on voit, c'est qu'en France, on a un mode de recrutement national des policiers qui a une conséquence que tous les sociologues ont noté depuis très longtemps, et une partie de la haute fonction policière l'a noté également, c'est que mode de recrutement central fait que des policiers, enfin de jeunes gardiens de la paix qui viennent de province, qui viennent de villes moyennes ou de petites villes, se retrouvent projetés, parce que c'est le début de la carrière, ils n'ont pas assez de points, en région parisienne où ils n'ont pas voulu aller. Ils n'y sont pas préparés et ils font ce choix par dépit. Donc ça pose très clairement la question du recrutement. Dans le rapport que vous avez mentionné pour Terra Nova, on l'avait mentionné, ça pose la question éventuellement de la régionalisation. On fait le choix de venir en région parisienne plutôt que d'y aller par défaut. Ça pose la question de la formation. Et la formation des policiers, on a aujourd'hui en France une formation des policiers qui est d'abord techno et juridico-centrée. C'est des éléments très importants de la façon dont les policiers doivent travailler. Mais la police, c'est un travail relationnel. On le voit quand on travaille dans les banlieues, c'est de l'interaction, c'est être capable de récupérer de l'information, de faire tomber les tensions, de gérer la violence, etc. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu de formation à la fois initiale et continue des policiers.
Une dernière chose, Jacques de Maillard, beaucoup de candidats aujourd'hui parlent de remettre en place une police de proximité. Est-ce que ça peut faire partie, est-ce que ça peut être une des clés, justement, cette police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur?
Alors le problème, c'est que le terme de police de proximité, il est très vite politique, très vite piégé. Ouais. Si on entend par police de proximité le fait qu'on doit avoir une police qui a un rôle qui est plus large, qui est une police de gardien de la paix, gardien de la cité, si c'est une police qui doit connaître les territoires, si c'est une police qui doit avoir des relations avec la population et avec les partenaires locaux, évidemment, ça me semble être une très bonne solution. Et de ce point de vue-là, ça pose la question de la place du policier dans la cité.
Merci beaucoup, en tout cas, Jacques de Maillard, d'être venu nous donner quelques clés pour tenter de comprendre ce qui se passe actuellement à Aulnay-sous-Bois et ce rapport entre la population et la police. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info. Et justement, l'info à 20h40, eh bien, c'est Pierrick Bonneau.
Affaire Pénélope Fillon, épisode 3. Le canard enchaîné affirme ce soir que l'épouse du candidat déjà soupçonné d'emploi fictif a touché un total de 45 000 euros d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale en 2002 et en 2013. Dans le premier cas, selon le canard, Pénélope Fillon a touché 16 000 euros d'indemnité alors qu'elle venait de retrouver un mois plus tôt un emploi auprès du suppléant de François Fillon. Marc Joulot, l'avocat de François Fillon, précise ce soir au micro de France Info que ces 45 000 euros avaient déjà été prise en compte dans la somme globale de 900 000 euros révélée mercredi dernier par le journal. La contre-attaque de François Fillon se joue aussi sur le terrain judiciaire. Son avocat estime nulle l'enquête préliminaire du parquet national financier portant sur les soupçons d'emploi fictif dont aurait bénéficié l'épouse du candidat. Antonin Lévy dit avoir déposé une note au PNF contestant la compétence du parquet. Selon le conseil de François Fillon, le délit de détournement de fonds publics ne peut pas s'appliquer à un député. 17 jeunes jeunes, dont 11 mineurs, seront présentés à la justice dès demain en comparution immédiate après les 3 nuits de violence à Aulnay-sous-Bois. Information à l'instant du parquet, 26 personnes ont été arrêtées au total hier soir après l'interpellation très violente du jeune Théo. Et puis près de 20 morts parmi les employés et les visiteurs de la Cour suprême de Kaboul. Nouvel attentat suicide contre des fonctionnaires afghans fauchés à l'heure de la sortie du bureau. 41 personnes ont été blessées, dont au moins un enfant.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, Christophe Alix de Libération, Raphaël Rémy Lele de Oser le Féminisme et Gaspard Koenig du think tank Génération Libre. On va parler d'Internet et de politique dans un instant, mais justement, j'avais une question à vous deux, journalistes, Judith Vintraube, Christophe Alix. Dans cette campagne présidentielle, est-ce que vous avez l'impression justement qu'Internet a pris un poids supplémentaire?
Oui.
Oui,
absolument. La rapidité de diffusion des informations fait que dans une même journée, vous en vivez, vous vivez l'équivalent d'un mois de ce que vous viviez dans les années 80, par exemple.
Vous sentez également des candidats plus affûtés là-dessus?
Oui, qui investissent davantage et puis qui ont les bons réseaux. Moi, je suivais plus particulièrement la droite. On voyait une différence très nette pendant la campagne de la primaire entre les équipes de Bruno Le Maire, qui étaient très affûtées.
Oui.
Celle de Fillon n'était pas mauvaise. Fillon se réclame geek, revendique.
Elle a même inventé Internet.
Celle de Juppé, c'était quand même un peu moins moderne, même s'il avait des équipes de jeunes très puissantes d'ailleurs.
Christophe Alix, vous-même, quand vous regardez ça, alors on cite toujours ici, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que alors lui, c'est le carton
hein,
sur YouTube. Non, sur YouTube, surtout
oui,
son carnet
oui,
de campagne.
Sa chaîne YouTube. Ouais.
C'est un carton absolu. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est véritablement indispensable.
Ah bah oui, c'est devenu d'ailleurs un des premiers lieux d'information. Hein, si on prend la population dans son ensemble, il y a aujourd'hui un basculement vers le média Internet, les réseaux sociaux, les portails de vidéos, donc comme YouTube. Et donc oui, c'est le lieu où il faut être et où la politique se déroule, disons. Un petit peu en permanence, quoi, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais.
Mmh. Ouais. Et le problème peut-être, c'est que ce qu'un réseau fait, un réseau a beaucoup de mal à le défaire,
ouais.
Contrairement à de l'information papier ou de l'information en tant que telle, parce que vous utilisez le mot information, c'est normal, c'est pratique, c'est générique, mais en fait, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux n'est pas par définition de l'information.
C'est la société de l'information, on dirait.
Raphaël Rémy Lele, vous êtes justement pour sur la politique, par exemple, est-ce qu'Internet pour vous c'est un bel outil ou ça reste encore cantonné entre camps? Finalement, ça ne peut convaincre que ceux que ça intéresse à la base.
Moi, je reste convaincue que Internet, en tout cas l'outil en tant que tel, n'a pas de déterminisme en lui-même.
Statuio.
Et ce qui était intéressant de voir, c'est justement les codes qu'est allé rechercher Jean-Luc Mélenchon pour que ça marche sur YouTube. Il est allé chercher des codes de fameux youtubeurs à qui je n'ai pas du tout envie de faire la publicité, mais avec des outils, des techniques qui ont été affûtées au fil du temps, avec des réseaux très puissants qui sont de l'autre côté du spectre politique, qui vont du côté de la droite et de l'extrême droite surtout, mais d'aller récupérer la manière dont on fait, parce que ça a créé ses propres codes, ça a créé ses propres filiations également. Et là,
the
il y a
media
des choses
is
à
the medium, voir. Disait Marshall McLuhan.
Très bel accent, en tout cas, Christophe Alix, magnifique.
Gaspard Koenig, dans son bouquin, Marshall
Gaspard Koenig, vous voyez, alors justement, il y a eu un fantasme à un moment aussi en France, on se souvient, quand Barack Obama a été élu, il a parlé beaucoup de Facebook à ce moment-là, qui avait pu éventuellement l'aider, mais on avait l'impression que c'était ce qui faisait l'élection. Il y avait un moment, des candidats, il suffisait qu'ils s'inscrivent sur Facebook, ils se sont dit, ça y est, comme ça, je suis élu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un fantasme, à un moment, autour d'Internet et de...
Les candidats classiques ont toujours un média de retard, c'est-à-dire ils sont sur Facebook quand les autres sont sur Twitter, ils sont sur Twitter quand les autres sont sur Instagram, ils sont sur Instagram quand les autres sont déjà partis sur, moi je sais plus, la messagerie directe...
Snapchat
Snapchat.
Exactement.
Mais je pense que...
Qui est en train de faire faillite, d'ailleurs.
Mais bon. Ouais, mais à part... Mais je pense que... Ça reflète aussi une déconnexion. À mon avis, un symptôme plus profond, qui est que nos institutions fonctionnent encore sur le mode représentatif issu de la société industrielle, alors que Internet est en train de déconstruire tout ça, mais lui n'est pas institutionnalisé, n'a pas les bons vecteurs. Et donc, on est en train de voir apparaître des réflexions sur des nouvelles formes démocratiques qui utilisent Internet, mais qui sont véritablement fondées sur Internet, comme la démocratie liquide, la démocratie délégative, etc. Enfin, ça, on pourra en faire des kilos. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'idée même d'avoir un représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui, pendant 5 ans, va représenter vos idées, dans lequel vous pouvez vous reconnaître, dans lequel une grande masse de gens se reconnaître, est quelque chose qui, me semble-t-il, disparaît avec la révolution numérique, où précisément vous attendez du sur-mesure. Et ce sur-mesure, la politique va devoir l'offrir, comme le commerce ou les services ont dû l'offrir.
Alors, Raphaël Rémy,
avec d'autres modes, d'autres modes démocratiques.
Raphaël, là où je tiens à réagir, j'ai pas pu réagir tout à l'heure, c'est que, au-delà du sur-mesure qui serait issu du numérique ou autre, moi je pense surtout qu'on en a marre d'avoir cette image politique et même plus du prêt-à-porter qui est de l'uniforme, de l'homme blanc de plus de 50 ans entremêlé dans des affaires. Et je crois qu'elle est là, la rupture, plutôt que liée à l'outil et à l'instantanéité et au zapping. Parce que ça, on nous l'a raconté quand il y a eu l'émergence de la télé, on se retrouve toujours avec les mêmes 30 ans après.
C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez des démocraties parlementaires qui sont beaucoup plus représentatives, comme au Royaume-Uni par exemple, où il y a, c'est plus représentatif de la société civile en termes de milieux sociaux, de race, etc. Mais vous avez néanmoins ce même rejet des élites, ce même rejet du système représentatif, ce même appel au référendum populaire sur Internet. Et donc, je pense qu'en fait, ça ne résout pas grand-chose.
Alors, Christophe Félix.
Ce que dit Gaspard est intéressant. Et je voulais mentionner un nouveau mouvement dont on parle beaucoup aux États-Unis. Maintenant, on parle de civic tech. Hein. Les civic tech, c'est les start-up de l'Internet qui sont dans les outils de la représentation politique. Et qui ont la prétention de vouloir un peu inventer des nouvelles manières de gouverner. Et donc, ça pose pas mal de questions, notamment éventuellement celle peut-être un jour d'une forme de privatisation de la politique par ces nouveaux outils technologiques. Et donc, les civic tech, elles considèrent que la politique est un marché comme un autre. Hein. Elles font elles cherchent de l'argent, elles font des levées de fonds, du capital. Et donc, on a effectivement un bouleversement. Et elles entendent finalement, comme on dit, disrupter la politique de la même manière qu'elles ont disrupté précédemment le commerce ou la musique sur Internet.
Et en même temps, Julien Troupe, c'est vrai, ce qu'on entend, c'est qu'on parle toujours d'Internet, mais c'est vrai que quand on voit les débats à la télévision, ils ont fait le plein, aussi bien chez les Républicains et même la primaire de gauche, ça a bien marché. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un média qui est quand même au-dessus, qui est la télévision.
Oui, bien sûr, et une appétence pour les formes traditionnelles de débat. Donc, j'ai un peu réagi à l'homme blanc de plus de 50 ans, parce que c'est tellement un cliché, excusez-moi. Moi, ce qui me choque, et depuis longtemps, dans l'autosélection du personnel politique, c'est l'endogamie, grandes écoles, n'ayant à peu près jamais ou alors très peu travaillé ailleurs que dans la politique. Et c'est beaucoup plus grave, cette totale déconnexion avec la vie réelle.
Moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'être gouverné par des clichés, mais mine de rien, qui sont dans ces écoles et qui en sortent dans ces positions de pouvoir-là, ça reste des hommes blancs et qui arrivent au pouvoir à plus de 50 ans. Benoît Hamon aura 50 ans.
Il y a aussi des femmes
parfaitement
dans le moule qui d'ailleurs arrivent à peu près.
Mine de rien, il n'y avait pas beaucoup de candidats primaires.
Si ça vous fait plus plaisir que ce soit une femme technocrate qui arrive au pouvoir,
déjà si on en avait plus, je pense que ça changerait aussi l'image et la représentativité de la classe politique.
On va continuer à en parler justement de cette classe politique. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Garde à vue levée ce soir pour l'Égyptien de 29 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attaque de vendredi au Carrousel du Louvre à Paris. Son état de santé s'est fortement dégradé. Le suspect gravement blessé au ventre par des tirs de riposte des militaires a nié un peu plus tôt dans la journée avoir voulu commettre un attentat, précisant qu'il voulait s'en prendre à des œuvres d'art. Restez unis, ne faites pas la guerre. L'appel au calme du jeune Théo, toujours hospitalisé ce soir après sa très violente interpellation par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois jeudi dernier. Le jeune homme de 22 ans qui a reçu tout à l'heure François Hollande a adressé un message aux jeunes de sa ville après 3 soirs d'affrontement avec les CRS, selon un enregistrement transmis par l'Élysée. Le Canard Enchaîné dégaine à nouveau ce soir des informations qui concernent les indemnités de licenciement versées à Pénélope Fillon. 45 000 euros au total. En 2002, l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle aurait notamment touché l'équivalent de 5 mois de salaire alors qu'elle venait pourtant de retrouver un emploi auprès de Marc Joulot, le suppléant de son mari. Le candidat dénonce ce soir des erreurs manifestes et des mensonges. La nouvelle loi israélienne sur la colonisation viole la législation pression internationale. Réaction ce soir du secrétaire général des Nations Unies après le vote hier soir par le Parlement israélien d'un texte qui permet à l'État hébreu de s'approprier légalement de nouvelles terres en Cisjordanie occupée. Antonio Guterres affirme qu'Israël doit se préparer à d'importantes conséquences juridiques.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info ont parlé justement de la place d'Internet dans la vie politique. Et là, il y a un objet utile hein, qui va être lancé, ça s'appelle Cross-Check. Voilà, alors ça sera lancé le 27 février à l'initiative de Google, de 16 rédactions françaises et approuvé par Facebook. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais on va quand même expliquer. Hein. Alors, il s'agit d'un outil de vérification en fait des infos du web afin de lutter contre les fausses informations polluant la toile aux résultats parfois inattendus, hein, comme on a pu le voir à la présidentielle américaine. Alors, c'est un outil idéal pour lutter également contre la fameuse théorie du complot, même si autant de médias ensemble et des géants du web, ça fait aussi un peu théorie du complot. Alors, il faudra alors créer un autre outil de vérification. Enfin bref, on s'en sortirait plus. Alors, une démarche importante, mais est-ce qu'elle n'arrive pas un peu trop tard? Comment faire face aux rumeurs qui ont pollué la campagne américaine, qui risquent de polluer la campagne française? Petit exemple avec Emmanuel Macron, depuis eh bien une semaine, il y a des sites pro-russes hein, qui l'accusent d'être à la solde des lobbies américains. Un député, les Républicains français, Nicolas Duhic, affirme qu'Emmanuel Macron est soutenu par un très riche lobby gay. Et l'ancien ministre de l'économie a été obligé hier soir de démentir les rumeurs qui le prétend en couple avec Mathieu Gallet, président de Radio France. Donc ces rumeurs qui n'arrêtent plus. Et c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, on voit se développer ce genre de démarche afin de lutter contre la désinformation. Est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard, Judith Vintraube, là, par rapport à la place qu'a pris aujourd'hui Internet?
Non, est-ce que c'est efficace? C'est surtout ça la question.
Oui, mais
trop tôt ou trop tard, je ne sais pas. Moi, j'ai été surprise qu'Emmanuel Macron démente en citant en plus le nom de l'autre personne qui est mêlée à cette histoire par la rumeur, chose que je ne ferai pas. Je trouve ça tout à fait étonnant et tout à fait imprudent. D'abord, il jette en pâture le nom de l'autre personne. Il sait absolument pas quelle est sa position sur le caractère public qu'elle peut avoir ou non de ses relations, de ses supposées relations. Et puis, il y a une règle vraiment de base sur la rumeur, c'est dès que vous la répétez, même si c'est pour la démentir, vous l'accréditez. Et je pense qu'il a commis une grosse maladresse.
Gaspard Koenig, justement, alors c'est le problème.
Une expérience, peut-être.
Le problème, finalement, aujourd'hui, quand on crée ce genre de logiciel, est-ce que c'est les fausses rumeurs ou c'est la perte de confiance dans les médias traditionnels aujourd'hui que nous représentons?
Je pense que le vrai problème de l'Internet, c'est pour ça que je pense que ce système ne le traite pas du tout, c'est pas la fausse information, parce que ça, il y en a toujours eu. Prenons par exemple la perspective des gorilles. Je lisais, parce que je lis ce livre dont tout le monde parle.
Ils sont connectés.
Je lis ce livre dont tout le monde parle, la Sapiens, qui explique comment l'humanité a progressé, est née, etc. Ils expliquent qu'en fait, si les hommes ont pu se réunir en des groupes de plus de 50 personnes, qui est le groupe maximal des gorilles, c'est grâce précisément à la rumeur. Et en fait, c'est la rumeur, le bavardage, le petit mot d'esprit, etc., qui permet aux sociétés de s'agrandir, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même la rumeur a toujours existé au fondement de nos sociétés.
Mais là, on a bien vu au moment de l'élection américaine qu'on a beaucoup mal à gérer finalement la fausse information.
Du coup, je pense que si Facebook dit maintenant, je vais vous dire quels sont les faits réels, je pense qu'il a autant de chances de se tromper que n'importe qui, que les critères de vérification vont devoir eux-mêmes être vérifiés, mais que le problème et le vrai problème d'Internet et la spécificité de l'Internet, c'est pas la fausse information, c'est le manque d'informations contradictoires. C'est-à-dire que vous êtes dans ce que certains activistes américains appellent la filter bubble, hein, la bulle du filtre. Et la meilleure preuve de ça, c'est que quand vous êtes sur Google, c'est pour ça qu'il faut pas aller sur Google, mais sur DuckDuckGo. Parce que Google prend en compte l'historique de vos recherches.
Ce qu'on appelle du phishing.
Et donc, vous avez, et c'est pareil sur ceux que vous suivez sur Twitter, et c'est pareil sur vos amis Facebook, etc. C'est-à-dire que vous n'entendez plus qu'un seul son de cloche. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que ça devient la vérité. Alors que quand vous ouvrez un journal, même si vous êtes plus ou moins sympathisant du bord du journal, vous tombez sur des pages auxquelles vous ne vous attendez pas, vous voyez des choses que vous ne voulez pas voir, et vous entendez des informations qui ne vous font pas plaisir. Et c'est ça qui est très important, c'est de garder le contradictoire plus que cette éternelle opposition entre le vrai et le faux. Alors, et ça, je pense pas que l'outil dont on parle le résolve. Et ça, c'est aussi quelque chose d'éthique d'utilisation de l'Internet. Aller sur DuckDuckGo.
Raphaël Rémy Leleu.
Finalement, on n'adresse pas le fond du problème parce que la tendance affinitaire, même pour augmenter la taille des groupes de bipèdes, ça a toujours existé. Mais je veux dire, j'ai pas envie de tomber dans des clichés, mais si on lit uniquement un certain journal associé à une certaine chaîne de télévision, c'est pas vrai qu'on entendra des sons contradictoires.
On ne peut pas s'isoler dans cette bulle.
Et le Figaro parle de la gauche et de la droite, Libération parle de la gauche et de la droite.
Et nos lecteurs regardent la télé aussi.
Oui. Mais alors, pas non plus également, parce que l'algorithme n'est pas parfait, omnipotent et omniscient, et vous allez toujours tomber sur des choses qui vous surprennent. Mais il y a deux choses qu'on n'adresse pas, c'est l'éducation aux médias et l'esprit critique. Et le fond des problèmes ne sont pas adressés, même les problèmes sur Macron qui auraient été financés par un lobby gay. Il y a deux manières de résoudre la chose. Moi, j'aimerais bien voir les comptes de campagne de manière claire, comme ça, ça résoudrait peut-être tout ça. Et deux, pourquoi encore aujourd'hui, ce serait un problème d'être financé par ce genre de choses? Pourquoi on remet sur la table
les questions? Parce que les lobbies sont interdits en France, en politique.
Mais c'est des
le
choses
mot
qui...
lobby n'est pas voilà, très positif,
c'est
quand même.
C'est pas ça le problème.
Je vous promets de vous inviter pour en parler. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, je suis sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ce soir, Frédéric Milleux. Merci à Gaspard Koenig. La une du Figaro, tiens, demain...
La droite resserre les rangs autour de François Fillon.
Voilà. Et la une de Libération, Christophe Alix.
Libération, Rassemblement, et si la gauche s'unissait, parce que finalement...
Mais tout le monde s'unit ce soir.
En incluant d'ailleurs Macron.
Ah d'accord, très bien.
Voilà, en incluant Macron.
D'accord, donc voilà, la une de Libération demain. Allez, il est temps. Il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Alors quel est le programme de Classico ce soir?
Et on va reparler de la Ligue 1 de football puisque la 24e journée a débuté dès ce soir avec encore une victoire pour le leader Monaco à l'instant sur la pelouse de Montpellier. 5 points d'avance désormais sur le PSG qui reçoit Lille. Ce match va débuter, on sera en direct. On parlera aussi des suites houleuses du derby entre Saint-Etienne et Lyon et de Lionel Messi à qui l'un de nos invités consacre un livre.
Voilà, quel programme encore, mais c'est incroyable. Voilà, le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.